Dans quelques instants, vous allez pouvoir suivre la cinquième et dernière conférence du cycle, 60 ans après le Concile Vatican II, Célébrons l'espérance. Elle avait pour invité Philippe Chalmin, professeur émérite des universités, qui présentait l'Église catholique en avant sur son temps, Vatican II. Dans le contexte des années 60, nous écoutons Philippe Chalmin.
Bien, nous assistons en plein dans cette période à la naissance du tiers-monde. C'est la fin des empires coloniaux, le début des indépendances, le sous-continent indien en 1947, le Ghana en 1957, l'Afrique francophone en 1958. Alors, il y a quelques guerres, bien entendu, qui polarisent les tensions, l'Algérie, l'Indochine, les colonies portugaises, mais on assiste, notamment à partir de la conférence de Bandung en 1955, à l'émergence de ce qu'on va appeler au départ le courant des non-alignés, des gens qui essaient de ne pas choisir totalement entre l'Est et l'Ouest, qui vont en réalité, à l'image de l'Inde des Nehru, faire des choix d'économie plus ou moins socialiste. Alfred Sauvy inventera en août 52 l'expression « tiers-monde ». Du point de vue catholique, c'est important, car c'est le moment où on en finit des missions catholiques. Et c'est le moment où commencent à apparaître des épiscopats, des églises autochtones. Monseigneur Lefebvre, qui a joué un certain rôle au Concile et surtout après le Concile, il était archevêque de Dakar. Et c'est, alors en tant que supérieur des Spiritains, mais c'était aussi en tant qu'archevêque de Dakar qu'il se trouvait au Concile. Bien entendu, les choses vont évoluer et vont évoluer de plus en plus. Donc, vous le voyez, un monde quand même extrêmement cloisonné, en pleine guerre froide, et il faut se rendre compte, ce qui peut expliquer d'ailleurs un certain immobilisme de Pie XII dans les années 50, c'est la crainte du communisme, la crainte de la subversion communiste à une époque où le communisme n'est pas franchement très cléricalisé. Deuxième élément à souligner, nous sommes, alors là pour l'Occident, et c'est quand même l'Occident qui va peser dans Vatican II, nous sommes au cœur des 30 glorieuses expressions de Jean Fourastier. C'est-à-dire une période d'euphorie en Occident, de rattrapage, mais on retrouve des chiffres de croissance à peu près équivalents d'ailleurs dans le monde communiste et même dans le tiers-monde. La croissance économique mondiale, dans les années 50 et 60, c'est pratiquement 5% par an. Et même en tenant compte du choc démographique que connaît à l'époque le tiers-monde, et un petit peu d'ailleurs, période du baby-boom, etc., dont on reparle actuellement pas mal, nous sommes quand même dans une période où le PIB per capita mondial, alors, PIB per capita, c'est-à-dire la croissance économique ramenée par individu, elle est quand même de 2,9%. Ça veut dire que les pauvres restent souvent pauvres, mais les espérances de rattrapage restent quand même importantes. En Occident, nous vivons aussi une certaine période de consensus. Et même en France, d'ailleurs, ce qui peut vous surprendre quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que tout le monde est à peu près d'accord sur un modèle de ce que j'appellerais de démocratie sociale de marché. Vous me rajoutez Keynes, Beveridge, un grain de main d'Est-France, et vous avez une intervention plus grande de l'État dans les économies, dans les rapports sociaux, et le développement de l'État-providence. C'est le moment où se construisent un peu partout, suivant des modèles différents, suivant les pays, tous ces acquis sociaux qui, aujourd'hui, nous paraissent de véritables acquis, même s'ils deviennent un peu coûteux, j'en conviens. C'est aussi, et là c'est important, une entrée dans la société de consommation. On découvre la publicité, on découvre le marketing, on découvre aussi des biens qui aujourd'hui nous apparaissent normaux, mais qui sont extraordinaires. Le téléphone, souvenez-vous du 22 à Asnières, la voiture, le frigidaire, Moulinex libère la femme, souvenez-vous mesdames. Bon, j'arrête d'en rajouter là-dedans, ceci dans un contexte de prospérité. Le chômage n'existe pas. En Europe, la moyenne du chômage à la fin des années 50, c'est 1,5% de la population active. C'est bien pour cela d'ailleurs que l'on organise des missions pour aller faire venir des travailleurs immigrés d'Algérie, enfin d'Afrique du Nord pour l'essentiel, pour nourrir ce développement économique. C'est, chers amis, pour certains d'entre nous, c'est leur adolescence. Moi, j'étais encore dans l'enfance, mais c'est l'adolescence de ce que François Bayrou appelait les boomers, qui finalement ont vécu une enfance et une adolescence comme leurs parents ne l'avaient même pas imaginé. C'est aussi, et ça c'est important, notamment dans le recul déjà sensible dans les années 50 de la pratique religieuse, c'est le grand moment de l'exode rural. Les campagnes se vident, puisqu'il y a des emplois qui sont créés dans les villes, les modèles de sociabilité évoluent, la place de l'église au cœur du village, au centre du village, ça n'est plus exactement la même, et de ce point de vue-là, c'est une des explications que l'on voit déjà au recul de la pratique religieuse dès les années 50. Le paradoxe est que cette société de consommation dans laquelle la génération de la guerre se jette avec bonheur, parce que eux, ils ont connu les privations, ils ont connu les tickets de rationnement, etc. Et soudain, ils se retrouvent dans une situation où ils peuvent enfin consommer, les vacances, prendre des vacances, etc. Et le paradoxe, c'est que c'est le moment où leurs enfants, en particulier, commencent à contester. Alors, il n'y a pas que. Et la contestation, elle vient d'ailleurs. C'est le moment des luttes anticoloniales. C'est le moment de l'émergence de la prise de conscience du racisme. Je pense à Frantz Fanon, par exemple. C'est en 1963 que Martin Luther King... 63, vous voyez, le concile vient juste de commencer. Mais c'est en 63 que Martin Luther King va faire son fameux discours « I have a dream », « J'ai un rêve ». C'est le moment aussi où les philosophes, ceux qui vont un peu influencer d'ailleurs la jeunesse de mai 68, commencent à remettre en cause la société de consommation. Quelqu'un qu'on a un peu oublié aujourd'hui, mais qui a été une des figures tutélaires de la pensée de 68 et post-68 tarde. Je veux parler de Marcuse. Marcuse publie Eros et civilisation en 1955. C'est le début d'ailleurs aussi de la Beat Generation. Kerouac, qui en est un des chantres, publie Sur la route en 1957. Donc vous voyez que déjà, tous les germes de ce que va être la contestation de la société de consommation, tous les germes sont déjà largement là. Et ce qui est intéressant, c'est que l'on y retrouve nombre de catholiques, et notamment de catholiques engagés. Vous savez, par exemple, que à l'initiative et largement manipulée par les services soviétiques, on le sait aujourd'hui, fut lancé en 1950 un appel de Stockholm contre le nucléaire. De très nombreux catholiques, de très nombreux prêtres aussi, engagés dans les luttes sociales, signèrent cet appel de Stockholm malgré les froncements de sourcils de l'épiscopat de l'époque. En France, il y eut même une union des chrétiens progressistes, très proche en réalité du Parti communiste, qui fut même interdite par la hiérarchie en 1955. C'est le moment aussi, d'ailleurs, où, vous savez que Rerum Novarum, la grande encyclique de Léon XIII de 1893, avait autorisé le développement des syndicats chrétiens, et il y avait un syndicat chrétien important, qui était la Confédération française des travailleurs chrétiens, qui remonte au début des années 20. C'est vers 1960 que commencent les premiers tiraillements à l'intérieur de la CFTC, qui va très rapidement se déconfessionnaliser pour devenir la CFDT. À la même époque, alors je reprends le cas de la France, mais on pourrait le développer ailleurs, c'est la crise des prêtres ouvriers. Les prêtres ouvriers qui étaient, je pense que Michel aurait pu en parler, parce qu'au fond, il en était largement l'héritier, mais les prêtres ouvriers qui ont connu un énorme développement dans, justement, cette France qui se réindustrialise à la fin des années 40, début des années 50, et le mouvement des prêtres ouvriers va être complètement remis sous le boisseau, limité, réduit, etc. Il sera relancé sous Paul VI, cela en 1959. Juste, donc, c'est un des derniers actes du pontificat de Pie XII, dont on sent d'ailleurs sur la fin de son pontificat un certain raidissement dans le contexte de la guerre froide. Il faut souligner d'ailleurs que les années 50, je reviens toujours sur la France, mais on le retrouverait ailleurs, c'est la grande époque des mouvements d'action catholique. On peut dire, années 50, début des années 60, c'est le grand momentum de l'action catholique, que ce soit la JOC, la jeunesse ouvrière chrétienne, la JAC, la jeunesse agricole chrétienne, dont la plupart des grands dirigeants agricoles français ont été issus, ceux que Modèle de Baptiste et autres, qui ont fait vraiment l'agriculture française de la fin du XXe siècle, étaient issus de la JAC, et vous retrouvez nombre de gens de la JEC, la jeunesse étudiante chrétienne, qui se retrouvent sur les barricades de mai 68. Tous ces mouvements avaient, ouvrez les guillemets, une certaine forme d'orientation à gauche que l'on retrouve dans un autre mouvement qui va lui aussi faire sa remise en cause, sa propre révolution. Je veux parler du scoutisme français qui, à partir de 1960, lance sa réforme qui va donner lieu à l'éclatement des mouvements scouts que nous connaissons aujourd'hui. Donc on voit bien que dans ce monde qui bouge, l'Église catholique, elle a un certain nombre de frémissements un peu partout que l'on sent tout pleinement. Et c'est vrai que par ailleurs, l'Église elle-même, elle évolue. D'abord parce qu'il y a toute une nouvelle génération de théologiens. Alors, je vais me contenter de les citer, et vous ne me demanderez surtout pas, mais je laisserai Ernest répondre éventuellement, si vous voulez, quelques détails. Mais de gens qui vont être d'ailleurs des experts à Vatican II, pour certains d'entre eux, ou qui auront énormément inspiré la pensée des uns et des autres. Je parle, alors, chez les Français, du père de Lubac, de Congar, de Marie-Dominique Chenu, chez les Allemands, de Küng, de Ratzinger, le futur Benoît XVI, de Romano Guardini, qui malgré son nom était un Allemand, qui fut le professeur de Ratzinger. Donc il y a toute une nouvelle génération de théologiens qui remettent, me semble, alors on peut rajouter d'ailleurs un certain nombre de penseurs maritains, dont l'influence avec Jacques Maritain, qui avait été, j'ai pas besoin de vous présenter Jacques et Raïssa Maritain, mais Maritain avait été en particulier ambassadeur de France au Vatican immédiatement après la guerre. Et Maritain aura une influence très importante, en particulier sur Jean XXIII, et je reviendrai un peu sur Pacem in Terris, qui ne fait pas partie de Vatican II, mais qui appartient à cette époque. Et donc, il y a tout un bouillonnement intellectuel que l'on ne peut pas négliger, parce que il faut reconnaître que, bon, sans porter de jugement de valeur, l'Église avait, depuis trois siècles, du point de vue théologique, un peu gentiment ronronné, et notamment la curie ne s'était pas véritablement remise en cause. Nouvelle génération de théologiens, mais aussi des voix qui se font entendre dans le tiers-monde. Certains d'entre vous se souviennent peut-être, alors c'est son tout début, mais d'un évêque brésilien, Dom Helder Camara. Alors, à notre génération, ça dit quelque chose. Aujourd'hui, il a été pratiquement oublié. Il fut archevêque de Recife, mais il va être un peu plus tard, mais il avait déjà été nommé évêque auxiliaire de Rio ou de Sao Paulo, je ne me souviens plus exactement. Il était déjà dans le courant de toute cette réflexion, en particulier latino-américaine. C'est en Amérique latine que se crée le mouvement Église-Société, dans lequel on va retrouver quelqu'un du nom de Gustavo Gutiérrez, qui est à l'origine de la théologie de la libération, qui interviendra un peu plus tard, qui sera condamné par Ratzinger, mais c'est une autre histoire. C'est important tout cela, cette émergence du tiers-monde. C'est que, lors de le premier jour du Concile, lorsque le Concile s'ouvre, le 11 octobre 1962, ils sont 2600 ou 2700 ou 2800, je ne me souviens plus exactement, dans Saint-Pierre de Rome. Là-dessus, il y a 38% seulement d'Européens, 32% d'Américains au sens le plus large, du nord au sud. Il y a notamment 400 prélats d'Amérique du Sud, et 20% d'Afrique et d'Océanie. C'est la première fois que, alors c'est peut-être pas ceux-là qui seront les plus entendus, mais c'est la première fois, et on peut imaginer que dans les commissions, dans les couloirs, etc., c'est la première fois que l'Église va prendre conscience de son universalité. Et ça, alors nous en sommes conscients, puisque nous, grâce à Ernest, nous découvrons au quotidien notre universalité, mais c'est quelque chose de totalement nouveau. Jusque-là, c'est l'Europe qui a envoyé ses missionnaires, et là, il faut tenir compte des épiscopats nationaux. Alors, ils se font peut-être moins entendre, mais ils n'en sont pas moins présents et tout à fait importants. L'Église aussi, elle évolue sur deux autres niveaux qui vont être importants, et je crois que tu en as parlé hier, c'est l'œcuménisme et les relations avec le judaïsme. Sur l'œcuménisme, là aussi, époque de Pie XII, on y va mollo mollo. L'Église catholique, par exemple, avait refusé et n'est toujours pas membre, d'ailleurs, du Conseil œcuménique des Églises, qui réunit tous les protestants, les orthodoxes, etc., à Genève. Ceci étant, et c'est intéressant, pendant qu'Angelo Roncalli, avant que d'être patriarche de Venise, il avait été nonce à Paris, et il avait géré notamment ce moment un peu difficile pour l'Église de France, de l'épuration, finalement de la libération, du retour des prisonniers, etc. Et en 1948, se crée un lieu que certains d'entre vous ont peut-être fréquenté, qui est Thésée. Thésée, au départ, c'est une communauté protestante, mais qui se réunit sous forme de prieuré à la catholique, disons. Et en 1948 ou 49, Angelo Roncalli, nonce en France, va donner l'autorisation qu'il se tienne un certain nombre de cérémonies œcuméniques à Thésée. Depuis, vous le savez, Thésée est devenue totalement œcuménique. C'est pas un hasard d'ailleurs si en 1974, c'est à Thésée que se tint, en utilisant le même vocabulaire d'ailleurs, le premier concile des jeunes. Qui est un souvenir tout particulier pour Agnès et moi. Il faut se rendre compte aussi que, alors il y avait aussi, en France encore, et la France joue un rôle important, il y avait aussi tout un groupe de réflexion avec luthériens et calvinistes qu'on a appelé le groupe des Dombes. Le christianisme lyonnais va jouer un rôle très important à cette époque. Et n'oublions pas, alors là, sans faire de cocardisme, que Vatican II, c'est probablement le moment où l'influence française, Vatican II et le pontificat de Paul VI, c'est le moment où l'influence française a été probablement la plus importante. La grande encyclique de Paul VI, Populorum Progressio, le premier G, il était rédigé en français. Et donc, je pense que l'influence française a été relativement importante. Donc, le groupe des Dombes, qui va préfigurer tous les travaux sur l'œcuménisme auxquels aboutira le Concile. N'oublions pas, d'ailleurs, l'influence que les protestants pouvaient avoir dans les luttes. Martin Luther King est un pasteur. Desmond Tutu, un petit peu plus tard, j'en conviens, est un évêque épiscopalien. Et donc, de ce côté-là, nos frères protestants, je regarde Jean-Paul, bien entendu, pour lui rendre tous les honneurs que l'on doit à un luthérien, nos frères protestants ont souvent été un peu plus en avance. Autre domaine où les choses évoluent, peut-être encore un peu plus lentement, mais qui va donner lieu notamment à un des moments les plus symboliques du Concile, ce sont les relations avec le judaïsme. Et ce que l'on sait peu, et qu'une de nos amies m'a rappelé, en 1960, Jules Isaac, c'est le Malais Isaac, hein. Et comme Malais était mort dans les années 20, on a tous bossé sur les livres d'histoire de Jules Isaac. Jules Isaac rencontre Jean 23. Il avait essayé de rencontrer Pie XII, mais ça n'avait pas donné grand-chose. Jules Isaac va rencontrer plusieurs fois Jean 23 et va le conscientiser quelque part à l'importance qu'il y a à ouvrir le dialogue avec les Juifs. Ça donnera l'un des derniers textes de Vatican II, Nuestro Aetate, mais en réalité, Jean 23 avait déjà supprimé la référence célèbre de la prière du Vendredi Saint pour les Juifs déicides. Voilà un petit peu quel est le contexte dans lequel se déroulent les prémices du Concile. Il est clair que Jean 23 et son génie aura été d'anticiper. Tout ce que je viens de vous décrire, ça verra toutes ces tendances qui sont déjà un petit peu sensibles dans les années 50, elles vont se renforcer encore dans les années 60 avant d'exploser en 68, mais pas que. Il n'y a pas que mai 68 dans le monde. Il y avait déjà la contestation des universités américaines, il y avait les Jeux olympiques de Mexico avec l'arrivée du 200 mètres, etc. Il y a eu finalement tout un mouvement, mais dont on peut sentir les racines. Et là où sans tomber dans de la papolatrie de base, je trouve que Jean 23 a eu du génie et probablement quelques inspirations divines en étant capable d'anticiper. Et il a été tellement que, alors, Riquet nous a raconté un peu l'histoire, mais je voudrais revenir là-dessus. Au départ, la curie avait préparé tout un tas de trucs et finalement, c'était circulé, il n'y a rien à voir. C'était un travail de bureaucrate, probablement de qualité. Et lors de la première session, on le sait, alors là, ce sont quelques grands cardinaux européens. Riquet a cité Liénard, qui était l'archevêque de Lille, mais il faudrait rajouter Suenens, qui devait être archevêque de Bruxelles-Malines, et Frings, qui est un cardinal allemand dont je n'ai plus la localisation en tête, qui ont mené une fronde qui ont fait que Jean XXIII a dit « si c'est comme ça, on met tout de côté, on repart à zéro ». On repart à zéro, alors Jean XXIII ne le verra pas, puisque, comme vous le savez, il va décéder dans le courant de l'été 1963, mais Paul VI en assumera pleinement la suite. La preuve d'ailleurs, c'est que, finalement, ce que l'on a souvent retenu du concile, c'est la grande critique des anti-Vatican II porte pour l'essentiel sur la liturgie, l'abandon du latin, le fait que, Ernest, tu ne tournes plus le dos à l'Assemblée, mais tu nous regardes, et un certain nombre d'autres choses. Et ça, c'est la première constitution qui est promulguée dès la troisième session, c'est-à-dire fin 63, et qui, Sacro Sanctum Concilium, qui est promulgué en décembre 63, et qui montre bien que c'est peut-être là le premier point sur lequel ils ont travaillé et sur lequel ils ont été capables de faire un petit peu, quand même, table rase d'un certain passé, tout en conservant quand même, quand on lit les textes, on voit bien quand même que nombre de précautions sont prises et qu'il y a eu parfois quelques excès dans les applications. Je voudrais vous signaler d'ailleurs qu'il ne faut pas réduire ni Jean XXIII ni Paul VI au seul concile de Vatican II. Jean XXIII n'a été pape que pendant 4 ans. Il a quand même publié 2 grandes encycliques, Mater et Magistra, et puis une autre qui prend aujourd'hui une dimension tout à fait d'actualité, et que vous pouvez même relire avec intérêt, c'est Pacem in Terris, la paix sur la terre, et qui est un plaidoyer en faveur d'un bien commun universel. Et je pense que dans les premières prises de parole de Léon XIV, c'est à peu près cela que l'on trouve. Paul VI, par ailleurs, en plus de... c'est puisque c'est sous le pontificat de Paul VI que sortiront tous les grands textes de Vatican II, mais un petit peu après, moi je retiens surtout en 1967, Populorum Progressio, qui est la grande encyclique sur le développement économique, qui a été en fait rédigé sous la forte inspiration du père Lebret. Le père Lebret, c'était je crois qu'il était jésuite, Lebret, j'en suis pas sûr. Il est jésuite, hein. C'était un jésuite lyonnais, c'est le fondateur d'Économie et Humanisme. Habitat Humanisme, d'ailleurs, qui vient de reprendre Belloc, en est une lointaine filiale. Et il est clair que dans Populorum Progressio, il y a toute une réflexion, alors là qui sort un petit peu, sur les conditions du développement économique, qui datent, elles, aujourd'hui un peu, mais qui sont bien le reflet des espérances que l'on pouvait avoir dans les années 60. De ce point de vue-là, d'ailleurs, Paul VI, c'est pour moi l'héritier de Jean XXIII, et au fond, Il complète bien ce qu'a apporté Vatican II. Le grand rêve de Paul VI, c'est quelque chose qu'il reprend et qu'il va considérablement répété au fil des ans, il a eu un pontificat quand même relativement long, c'est ce qu'il appelle la civilisation de l'amour. Je voudrais vous citer ce que Paul VI avait dit, donc on est en 63, au moment de son discours de couronnement. Au-delà des frontières du christianisme, il est un autre dialogue avec lequel l'Église est engagée aujourd'hui, le dialogue avec le monde moderne. Et ça, ça rend bien, on est en 63, ça rend bien finalement ce qu'a pu être l'ambiance du Concile Vatican II. C'est ce dialogue que l'Église catholique entama avec le Concile et qu'elle était peut-être une des premières grandes institutions à entamer à un moment où, soyons honnêtes, on avait un petit peu tendance à rester fasciné par la croissance, par les tensions géopolitiques et peut-être moins par l'éclosion de ce que Paul VI souhaitait, la civilisation de l'amour. Juste alors, en conclusion, et il me reste, je me suis donné 45 minutes, il me reste une minute, je voudrais simplement vous citer et vous lire, j'ai retrouvé, ça appartenait à mes beaux-parents, l'intégrale des textes de Vatican II, ce qui fut publié en 1965, 66, 67, c'est toute la traduction. Et il y a une préface de quelqu'un que je ne connais absolument pas, qui était Paul-Émile, cardinal Léger, archevêque de Montréal et cardinal de la Sainte Église, comme on disait à l'époque. Vous voyez, les vieilles habitudes restaient. Je lis simplement sa dernière phrase, et je vous promets, je m'arrête ensuite. « Si chaque lecteur qui s'arrête à ces pages se demande non pas ce que les autres devraient faire pour mériter d'être appelé chrétien, mais ce qu'il doit faire lui-même, alors le monde, le pays, les diocèses, les villes, les paroisses, les familles, les groupes de religieuses et de religieuses, les mouvements de chrétiens, les milieux de vie et surtout les personnes ne seront plus les mêmes. Partout, ce sera pour vrai le nouveau printemps de l'Église. » Alors, l'expression « printemps de l'Église », on l'a utilisée. Pour certains, tout ce qui s'est passé par la suite, qui était déjà d'ailleurs un petit peu prégnant avant Vatican II, leur a fait penser qu'on était passé directement à l'automne. Je crois que c'est une erreur. Je crois que Vatican II a préparé un printemps de l'Église qu'il faut non plus regarder de notre ère un peu et de notre petit poste franchouillard relativement aigri, mais regarder au niveau de la planète où il y a quand même encore aujourd'hui 1,5 milliard de chrétiens pour lesquels le printemps c'est demain. Merci de votre attention.
Vous venez de suivre l'Église catholique en avance sur son temps, Vatican II dans le contexte des années 60, conférence présentée par Philippe Chalmin, professeur émérite des universités, enregistrée à l'occasion du cycle 60 ans après le Concile Vatican II, célébrons l'espérance à la paroisse Saint-Pierre de l'Océan, c'était en septembre 2025.